dans le dugout.
À une plaie. Ouais, une plaie ouverte. C'est comme ça que je me sens depuis hier. J'ai l'impression de replonger dans une époque où est-ce que j'étais très jeune, mais ça m'avait fait très mal. J'avais juste 13 ans quand les Expos ont quitté Montréal, mais je comprenais pas. J'étais là, pourquoi? Il me semble qu'on aime ça le baseball ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? De réécouter hier la chronologie des événements avec le documentaire « Qui a tué les Expos », ça m'a amené... J'ai été submergé de tristesse, mais de frustration, les gars, là, parce que c'est pas vrai qu'il y a juste un élément déclencheur. Mais il y a bien du monde qui sont à blâmer dans cette histoire-là. Me trompes-tu?
Sans aucun doute. Puis, c'est... je pense que la question qu'on pose aux gens ce matin est très pertinente, parce que j'ai même pas la réponse ce matin à offrir. Qui a tué les Expos? Il y a plusieurs responsables. Puis je sais que Jeffrey Loria et David Sampson ne seront jamais les gars les plus populaires à Montréal.
Avec raison.
Parce que je pense qu'eux, ils n'ont peut-être pas tué les Expos, ils les ont achevés. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est assez évident.
Ils ne voulaient pas que ça fonctionne.
Ils les ont sabotés.
Oui. Ils ne voulaient pas que ça fonctionne.
Non. Puis avant ça, par contre, il y a une comédie d'erreur qui s'est produite. Et moi, je déplore totalement la vision de nos millionnaires québécois et de nos gouvernements.
Absolument.
Qui ont très mal jugé la valeur d'une concession sportive. Et c'est assez incroyable de voir à quel point il y a des similitudes entre le départ des Expos et le départ des Nordiques. Le lien à faire, c'est l'argent. Oui, ça s'est mis à coûter plus cher. Parce que la flambée des salaires est arrivée avant la flambée de la valeur des concessions. Aujourd'hui, là, dans la Ligue nationale de hockey, les équipes font de l'argent, les joueurs font de l'argent... Les plafonds salariales, le plafond salarial, ça augmente. Puis je pense que c'est un bon modèle d'affaires. C'est juste que là, les circonstances ont fait qu'à un moment donné, dans les années 90, notre dollar valait 70 cents US. Fallait investir un petit peu partout dans nos installations sportives et ailleurs, les hôpitaux, les écoles, etc. Il y avait des compressions budgétaires au niveau gouvernemental et on s'est dit, on n'a pas d'argent pour des millionnaires du sport qui gagnent de plus en plus d'argent. Ouais. Mais à ce moment-là, les concessions valaient pas mal moins cher, mais on a très mal évalué à quel point ça allait exploser en valeur. Et c'est ça que moi, je déplore le plus là-dedans, c'est que des gens qui ont fait fortune en ayant la bosse des affaires, en flairant les bonnes opportunités... Ben, la bonne opportunité avec les Expos de Montréal et avec les Nordiques de Québec a été complètement ratée dans les années 90.
Tu sais,
c'est ça qui est vraiment, vraiment dommage.
Ce serait facile de l'extérieur de dire « Ouais, il n'y a personne qui allait au match. » Parce que c'est ça qu'on entend. J'ai même entendu, je pense que c'est Georges qui disait ça. Tu sais, on va vous le dire pourquoi ça n'a pas fonctionné les Expos. Le monde n'allait pas au match.
Non, c'est pas vrai ça.
Le monde n'allait pas au match parce que les gens étaient écœurés de la façon dont c'était géré.
C'est ça.
La combinaison de la grève de 94 mélangée avec la vente de feu de 95.
Hey, c'est épouvantable, ça. Ça sortait-tu, joueurs? Tous nos meilleurs joueurs.
Tu prends Marquise Grissom, tu l'échanges à ton adversaire direct, ça va avec les Braves. Comment tu veux, après ça, en tant que partisan, t'attacher à cette franchise-là? C'est ça qui a été tough. C'est pour ça que ça a été compliqué avec les Expos.
Ça a été compliqué, pas à peu près. Puis moi, je suis d'accord avec Anthony. Tu sais, il n'y a pas personne. Puis ça valait combien une franchise de baseball en 2000? En 1999, mettons, ben c'est là que les politiciens et les hommes d'affaires ont backé. Là.
C'était rien comparé à ce que ça vaut aujourd'hui.
C'était quoi? C'était
quelques centaines de millions.
150 millions?
Ben, Loria a mis 20 millions de sa poche pour acheter 25 % des parts des Expos.
Puis ils les ont vendus pour quoi? 150, je crois?
Au baseball majeur, 120 millions.
120 millions, mais la crosse là-dedans, parce que c'est un escroc, là, n'ayons pas peur des mots, c'est qu'il a racheté tranquillement, petit à petit, il a avalé les actionnaires du Québec ici, puis s'est retrouvé à devenir propriétaire de 92%.
Majoritaire.
Puis là, après ça, il a fait « OK, ciao, bye ».
C'est ça.
L'autre élément que moi, je déplore, à nouveau, avec le recul, je pense que Claude Brochu a bien fait d'aller parler dans ce documentaire-là parce que je trouve que son étoile brille un petit peu plus aujourd'hui.
T'as raison.
On est conscient de toutes les contraintes auxquelles il a fait face. Ceux qui n'ont pas vu le documentaire, on comprend très très bien que Claude Brochu lui-même est un actionnaire plus que minoritaire dans le dossier, mais c'est lui initialement qui a sollicité le Québec Inc. d'embarquer là-dedans. Mais le Québec Inc., là, un embarquait pour 2, l'autre embarquait pour 5, l'autre embarquait pour 3 millions. Ils n'avaient pas tous le même impact, mais au bout de tout ça, le baseball majeur demandait une chose. OK, vous voulez faire ce modèle-là? pour détenir la concession, parfait. Mais ça prend un actionnaire de contrôle, un qui va trancher, qui va gérer la barque et qui va venir dealer avec le baseball majeur. Mmh. Ce gars-là, ça a été Claude Brochu. Claude Brochu, au début, ça allait bien, mais après, là, tous les autres autour de la table, ils voulaient avoir leur mot à dire dans la gestion des opérations.
Mais y aurait-tu pu Claude Brochu s'asseoir avec un conseil d'administration des actionnaires, puis ensemble on décide, puis voici ce qu'on fait, puis après ça, moi je vais représenter notre décision de notre groupe au baseball majeur.
Mais je suis convaincu que ça, ça a été fait.
C'est probablement ça qu'ils ont
fait,
Tony.
Parce que la manière qu'il parle, c'est comme s'il disait qu'on n'avait jamais notre mot à dire, on n'était pas consulté.
Ben, au début, ça devait être présenté aux actionnaires, j'ose croire que ça a été fait. Mais après ça, tout le monde se disait, hey, t'es au camp d'entraînement, je suis propriétaire des Expos. Ben non, t'es pas propriétaire des Expos. T'as mis 2 millions dans le club. Le club, il en vaut 120. Et il y a un montage financier qui a été fait. Puis un détenait 2%, l'autre détenait 3%, puis l'autre en détenait pour 5%. T'avais des propriétaires, actionnaires personnels. D'autres, c'était des compagnies. Il y avait même... un syndicat là-dedans. Comment tu veux gérer ça? Écoute, c'était évident que ça n'allait pas fonctionner à long terme. La merde a pris dans le dossier et au bout de la ligne, c'est Claude Brochu qui a écopé. Il a fini par se tasser. Est-ce que ça a été une bonne chose? Ben, je suis pas certain après avoir vu le documentaire. C'était mûr pour arriver, on l'a fait sauter, mais la conséquence, c'est que il n'y a plus personne qui voulait s'impliquer, racheter la concession, garder ça dans les mains d'un actionnariat québécois. On a ouvert toute la porte à l'arrivée d'un Américain escroc qui a acheté le club puis qui l'a achevé.
Tu sais, quand on annonce dans le documentaire que Brochu s'envoie et tout ça, tu parles d'une astique gang d'hypocrites, les autres, là, qui... Ah. Hey, fuck you.
Surtout que la façon qu'il parle.
Fuck you, vous jouiez dans son dos. Si tout le monde n'était pas de bonne humeur, puis là, Claude Brochu décide, OK, ma résignation, ça, je m'en vais. On l'applaudit. Hey, tu parles d'un astique de gang de hypocrites incroyables.
Surtout de la façon dont il parle.
Incroyable.
Je vais te laisser aller après, c'est qu'il était à deux doigts d'être capable d'avoir un stade au centre-ville.
Mais parce que c'est ça reste qu'il y avait un job. Aller chercher le financement du gouvernement, il n'a pas été capable de le faire.
Il voulait pas.
T'as un job, essaie de la faire.
Oli, tu peux-tu mettre un gun sur la tête à Lucien Bouchard dans le temps, dire, hey, donne-moi.
De la façon qu'il parle, il était à deux doigts d'y parvenir.
Je sais. Mais pourquoi qu'en dernière minute, on a backé parce qu'on n'a pas mis d'argent dans les hôpitaux, puis là, Lucien Bouchard a peur de perdre la faveur populaire. La faveur populaire, c'est très important pour les politiciens, la faveur populaire. Je veux pas vexer personne. Je vais dire les choses que je pense pas parce que je veux pas vexer personne, mais je le pense pas vraiment. C'est ça, les politiciens, là. Ils sont pas tous de même, là, mais il y en a un maudit paquet, là.
Il y a un grand sage qui a dit dans l'auto pendant notre covoiturage tantôt, ce gars-là, c'est pas moi, mais je vais emprunter le langage de Anthony Desaulniers qui était ça devant de moi. Quand t'es élu...
En avant de toi, parce que tu te fais chauffer, tu te sens...
Non, j'ai conduit ce matin. Alors, la Audi est restée stationnée, c'est moi qui ai conduit aujourd'hui.
OK.
Puis Desaulniers disait, t'avais tellement raison de dire, quand... Nos politiciens, ils sont là, c'est pour se faire élire, mais tout est pensé en fonction du court terme.
Ben voyons donc.
C'est jamais à long terme.
Ben voyons donc, c'est ça.
C'est comme ça que ça fonctionne.
Non, mais tu sais, aurait coûté dans le temps, là. T'sais, le gouvernement aurait mis quoi là-dedans, là, Tony? Je sais pas, moi, 100 millions?
Mettons, il aurait mis 200 millions, qui en aurait valu 400 en argent aujourd'hui.
400, puis que là, ça vaut combien, là?
Mais c'est parce qu'au final,
mais ça vaut combien, là?
Au stade, 2 milliards. Mettons, tu fais ça au centre-ville. Les hôtels, les restaurants, les boutiques, les bars... Le tourisme, la visibilité sur la ville, c'est tout ça qui vient avec.
Oui, mais attends une minute. Attends, je vais vous amener un petit peu plus loin. Là. Quand que le Canadien, c'est quand que George Gillett a acheté le Canadien?
La même époque, début 2000, à peu près 2001.
Ouais.
Qui au Québec a levé la main pour acheter le Canadien?
Serge Savard.
À l'époque?
Serge Savard était dans le dossier pour acheter le Canadien, pas à peu près dans ce temps-là. Il y avait un groupe avec lui.
Ah, comment ça fait que ça n'a pas fonctionné si c'était Serge Savard?
Ben, ils ont pris probablement la meilleure offre pour acheter le club. Mais Serge Savard était à la tête d'un groupe
pour acheter
l'équipe.
Mais il n'avait pas une tonne. Non. Il n'y en avait pas une tonne. Que peut-être Serge Savard, mais moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui ont levé la main pour acheter le Canadien. Cher et tout ça, mais il n'y a pas personne qui voulait investir. Là, quand George Gillett est arrivé, on a chialé. Tabarnak, un Américain qui vient acheter le Canadien, ça n'a pas de bon sens. Le Canadien a survécu avec George Gillett. Pourquoi que le Canadien a survécu avec George Gillett? Parce que le Canadien, c'est du hockey. C'est dans notre sang.
Ah, mais le baseball aussi, c'est dans notre sang.
Moins que le hockey. Puis le Canadien, ça fait 100 ans que ça existe. Moins que le hockey.
Sébastien me corrige. C'était Serge Savard qui voulait acheter de Gillett. C'est ça qui est arrivé. Ça.
Parce que quand George Gillette a acheté Tony, il n'y a pas, pas un estique de chat qu'elle va à main.
T'as raison.
Pas un chat qu'elle va à main. Là, on s'est plaint après. Bah, comment se fait que ce n'est pas des Québécois qui ont acheté le Canadien? Parce que Kalik, il n'y a pas personne qui a voulu. Il n'y a pas personne qui le va à main. Alors, c'est pas rentable. Un club de hockey, c'est pas rentable. Hey, tu es rentable, le Canadien de Montréal?
Ben oui.
Non, mais sérieux, là. T'sais, on chiale après. C'est ça. On est de même. Tu sais, on. Regarde. Trop tard. C'est trop tard, c'est fini, ça reviendra plus, c'est terminé. Puis malheureusement, c'est ça. Ça coûtait trop cher. Puis on voulait pas mettre. On voulait mettre l'argent dans les hôpitaux. Hey, on les a améliorés en ostique les hôpitaux dans les 20 dernières années. Oh, tabarnane! Hein? Tu es écœurant notre système de santé? Ça va-tu bien? Non, mais sérieux, ça va-tu bien, on lit les systèmes de santé, là?
Ok, non.
Hey, on pas de club de baseball, mais les hôpitaux vont bien en tabarnane! Sérieux, là? Sérieux, là? Toute une petite gang de plein de marde. Je regrette, là, c'est des plein de marde. Moi, ça me met
Ça me frustre terriblement. Puis c'est un bon reflet de ce que le Québec est devenu aujourd'hui. Tu sais, nous autres, le Québec, ben, c'est la social-démocratie. Puis, tu sais, il faut aider tout le monde. Puis, il y a du bon là-dedans. Évidemment qu'il y a du bon là-dedans. Mais pour aider tout le monde, des fois, il faut que tu réussisses à amener de l'argent de l'extérieur aussi. Mais un club de baseball, là, je suis désolé de vous l'apprendre, là. Mais ça génère des retombées économiques exceptionnelles pour une ville. Puis en plus, on est en plein été. Il y a un ralentissement en plein été là, pour les hôtels en plein centre-ville, puis les restaurants, puis tout ça. Mais t'amènes des touristes de partout dans le monde qui arrivent là.
Tony, on n'a plus le temps. Là.
Pourquoi?
Ben, parce qu'il faut aller à la pause. Okay. Mais avant qu'on y aille, j'aimerais ça que tu me parles des Twins du Minnesota. Est-ce qu'ils ont fait dans la même situation que les Expos par rapport à la grève?
Très simple. La grève de 94, là, c'est sûr que ça a fait mal aux Expos. On était premier dans la Ligue. On aurait pu se rendre jusqu'au bout.
T'as 5-6 games
d'avance. S'il n'y a pas la grève là, peut-être que un championnat, une série mondiale aurait donné vraiment une rampe de lancement pour les Expos puis préserver l'équipe à long terme. C'est possible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La grève est arrivée et les Expos ont écopé. Sauf que les Expos n'ont pas été les seuls à écoper. T'sais, c'est pas parce qu'on est à Montréal, là, la grève nous a fait mal. Mais les Expos n'étaient pas le seul petit marché dans le baseball majeur. Pourquoi d'autres clubs ont survécu? Une raison, ils ont construit des stades. Les Twins du Minnesota, ils ont presque perdu leur club quelques années, dans les mêmes années que les Expos. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des fonds publics sont arrivés, ils ont construit un stade. Qu'est-ce qui est arrivé? Les Twins sont encore au Minnesota. Ça, c'est juste un exemple, mais il y a des stades un petit peu partout qui ont été construits aux États-Unis. Jérémy Filosa l'explique très, très bien dans le documentaire.
Qui est excellent, d'ailleurs, Filosa. Oh,
hey, Jérémy, c'est
Cleveland,
super.
Là, Cleveland, s'ils n'avaient pas bâti leur stade, le Jacobs Field, dans les années 90-92, le stade municipal, il n'aurait pas survécu là, là. Le Met Stadium, là, que c'est le Metrodome, là, je suis allé au game, à des games de baseball là, à Minnesota. Le Metrodome, c'était pas une place de baseball. Là.
Non. T'sais? Pittsburgh, c'est pas un gros marché. Ils ont construit un stade superbe.
Ben, ils ont créé, c'est ça. Ça aurait été extraordinaire. Tu sais, je vais juste à Boston l'été, là. Tu vas à Boston, là, tu vas toutes les années à Boston voir des games de baseball. C'est-tu le fun de marcher autour du stade avant la game?
Oui.
C'est plein de monde, c'est des restaurants, c'est de la une bière là, un pub là. Tu vas manger un top sandwich, tu rentres en dedans. Le party pogné dans les rues. Non, on voulait pas ça, nous autres.
Question de jour aujourd'hui, selon vous, qui a réellement
les hôpitaux, les hôpitaux, c'est important.
Jeffrey Laurier et David Sampson, 38%. Le gouvernement et les actionnaires du Québec, 28%. La grève de 94 à 22%. Et Claude Brochu, seulement 12%. Quand tu parlais de redorer son image avec le documentaire, Tony, je pense que bien les gens qui ont la même impression, à ne pas manquer, à 8h30 ce matin, on va recevoir Claude Raymond avec nous à l'émission. Ça va être excellent. Mais au retour, c'est pas Claude Raymond, c'est Renaud Lavoie.